9h-11h, Wendy Bouchard.
Ravie de vous retrouver, chers amis. Bonjour, merci de commencer la semaine en notre compagnie. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Au cœur de l'actualité sociale, on fait le tour de la question suivante. Le mouvement des Gilets jaunes doit-il continuer? Certains, vous le savez, veulent sortir de la contestation après les nouveaux débordements du week-end et la blessure grave à l'œil d'une des figures de cette contestation. Les foulards rouges ont appelé au calme notamment. D'autres, au contraire, appellent à un soulèvement citoyen samedi prochain. Vous nous direz quelle est votre position? Vous avez la parole. Nos invités vous éclairent, notamment Bruno Jeudi, rédacteur en chef à Paris Match. Tous les camps, en tout cas, représentés ce matin dans notre émission. Et vos appels, dès maintenant, le standard est ouvert, hein, vous le rappelle.
C'est le 3921. Et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe. Hein.
Oui, vous êtes très nombreux sur les réseaux, n'hésitez pas. À 10h, on parle de la surpêche qui détruit nos fonds marins et nos poissons. Y contribue-t-on, par exemple, lorsque l'on achète notre poisson en grande surface? Nous verrons si la France est vertueuse en la matière et que fait l'Europe avec ses quotas pour soutenir une pêche plus durable. Christian Buchet, spécialiste de la mer, sera en studio avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bienvenue à tous.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec le bilan de l'acte 11 des Gilets jaunes, 70 000 manifestants à travers tout le pays, des incidents, une blessure à l'œil, l'IGPN saisie, des violences encore à Paris donc, place de la Bastille, à Toulouse, l'un des bastions de la contestation, à Dijon, Montpellier, à Avignon ou encore dans l'Ouest. Bonjour Bruno Jeudi.
Bonjour Wendy.
Merci d'être avec nous pour analyser cette situation. Je vais donner la parole dans un petit instant à Jérôme Sainte-Marie qui était encore dans les cortèges parisiens qui préside l'Institut de conseil et d'études PollingVox et qui voit cette mobilisation changer parfois de forme. Et Laetitia Deval, qui est avec nous, porte-parole des Gilets jaunes du Val-d'Oise. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il y avait un défi particulier pour vous, alors que le mouvement était en train de se diviser sur les buts à poursuivre, au cœur de cette mobilisation de samedi. Quel est le bilan, après celui que je viens de faire, de cet état d'esprit et de ce défilé des différentes sensibilités samedi, pour vous?
Eh ben, on peut bien noter que malgré le fait que certaines personnes présentent des listes européennes au nom des Gilets jaunes, notre mobilisation reste entière puisque justement nous ne soutenons aucune liste de Gilets jaunes et que notre combat n'est pas aux européennes mais au niveau français.
Il y a un combat quand même qui change de sens. Vous appelez davantage maintenant à lutter contre les violences policières. Nous en parlions vendredi. Je sais que le pouvoir d'achat n'est pas loin de vos préoccupations. On viendra sur l'une des propositions que vous soutenez.
Très proche.
Très proche en effet. Mais vous comprenez aussi que dans l'opinion publique, on peut s'interroger sur les buts maintenant que poursuivent un certain nombre de Gilets jaunes.
Alors moi, je pense surtout que l'opinion publique, dans sa grande majorité, écoute ce que l'ensemble des médias, et je ne parle pas de vous, relayent, et ne sont pas particulièrement sur le terrain. Les manifestations n'ont pas changé de forme depuis le début, hein, des tailles presse, et qu'elles sont désormais déclarées et ou autorisées. Mmh. Donc, dans la mesure, nous avons l'encadrement policier qui devrait être avec. Je suis désolée si vous entendez du bruit.
J'entends
derrière,
beaucoup de bruit.
Je suis à la maison, c'est mon petit kiki de 2 ans qui demande de l'attention.
Il n'y a pas de problème.
Donc, là où nous déplorons, c'est effectivement tout un cortège qui n'est pas spécialement encadré par les forces de l'ordre, les routes ne sont pas sécurisées, la circulation continue et la violence du côté des Gilets jaunes, entre guillemets Gilets jaunes, parce que voilà, à nouveau, ce n'est pas le cœur de notre mobilisation. Nous les déplorons, nous les avons toujours déplorés. Maintenant, ce que nous dénonçons et dénonçons depuis déjà plusieurs semaines, ce sont les violences qui sont faites contre les Gilets jaunes qui, eux, sont pacifiques. Donc on a eu le cas de M. Rodriguez qui se veut être médiatisé. Donc on le connaît, on se référence beaucoup plus facilement à lui qu'à M. ou Mme Tout-le-Monde qui se retrouverait blessé dans les mêmes circonstances. M. Rodriguez, on peut le suivre, n'a toujours prôné que le pacifisme. Mmh. Au moment où il y a eu le tir, il était entouré de quelques personnes, ils étaient 5 ou 6 autour de lui, en train de demander « Jérôme, on n'arrête pas de se faire gazer ». Entre guillemets, voilà, il prenait du gaz lacrymogène. Comment on fait pour sortir? On n'arrive pas à sortir. Voilà, il demandait du secours. Et à ce moment-là, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, je ne pense pas que c'était un groupe de séditieux qui était en face des forces de l'ordre et qu'avec simplement un peu de recul et de jugement, on les voit, nous, les casseurs. On les voit, ceux qui sont en train d'enlever les pavés, etc. Pourquoi nous, on les voit et que la police n'arrive pas à les voir?
Il parlait d'ailleurs, il voulait aller récupérer place de la Bastille des Gilets jaunes qui étaient face aux Black Blocs et qui étaient manifestement en danger. Il y a une enquête qui est en cours. De toute façon, l'IGPN est saisie. On verra d'abord quelle est la nature de l'arme qui l'a blessé et dans quelles circonstances cela s'est produit. Simplement, on y reviendra. Mais il se dit prêt à aller plus loin, Jérôme Rodriguez, depuis son lit d'hôpital. Il apparaît comme ça, comme une figure de martyr. Il dit, il pourrait pourront m'enlever mon œil, mes bras, mes jambes, je continuerai. Est-ce qu'on peut aller si loin dans les superlatifs quand on sait justement ce qu'est la véritable violence, Laetitia ?
Mais quand on essaye de nous faire peur, on ne nous fait pas peur, on nous rend plus fort. Pas plus fort physiquement, pas plus fort dans la combativité physique, plus fort dans notre état d'esprit, plus fort dans nos revendications, plus fort dans ce qu'on croit. Jérôme, une fois de plus, dans ses mots, veut dire par là qu'il ne va pas lâcher, que ce n'est pas parce qu'on va lui enlever un œil, puisque à ce jour, on ne sait pas encore s'il va récupérer la vision de cet œil-là. On a la chance, c'est que pour l'instant, il n'y a rien au niveau de l'IRM et que tout va bien, que son œil peut rester en place, mais on ne sait pas encore s'il pourra voir. Jérôme, par là, veut dire on ne lâche rien, c'est pas parce qu'on commence entre guillemets à s'attaquer. Après, reste à définir si attaquer volontairement ou non volontairement. Je ne me ferai pas juger, jurer là-dessus.
En tout cas,
chacun fera son opinion. Mais Jérôme a toujours prôné le pacifisme, et ce n'est pas parce qu'on va commencer à entre guillemets, viser des pseudo-figures, parce qu'une fois de plus, nous sommes monsieur, madame, tout le monde.
C'est théorie qu'il a été visé parce qu'il est figure de gilet jaune, encore une fois, rien nous le prouve aujourd'hui.
Disons qu'entre deux arrestations de monsieur Drouet, l'arrestation simultanée de Maxime Nicole à Bordeaux, hier, Jérôme Rodriguez à l'œil, vous nous permettrez d'avoir un doute.
Oui,
voilà, sans parler dans le complotisme, juste de laisser un doute.
Que ces figures, en effet, prennent bien la lumière et aussi ce qui va avec. Ne pas lâcher, c'est ce que vous disiez, Laetitia Deval, je vous redonne la parole dans quelques instants. C'est ce qu'on retrouve, Jérôme Sainte-Marie, aussi dans les cortèges. Vous y étiez, je ne sais pas si vous étiez du côté de Bastille ou des Champs-Élysées, ou si vous avez pu faire la boucle. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme Sainte-Marie, vous êtes avec nous ? Jérôme Sainte-Marie, est-ce que vous nous entendez ? Président de l'Institut Polling Box, bonjour Jérôme. Non, alors je redonnais la parole à Jérôme dans un instant. Pour le sonder sur ce côté-là et ce ressenti, Bruno, je dis, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un timing particulier. La cote de l'exécutif remonte légèrement. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron a lui retrouvé une énergie lorsqu'il va à la rencontre des maires et puis en marge aussi des gilets jaunes. D'où l'interrogation sur le sens de cette contestation qui dure tout de même.
Oui, bien sûr. En fait, on voit bien qu'il y a comme une espèce d'inversion, un peu pas du rapport de force, mais on sent que l'exécutif a repris un peu d'oxygène, que le lancement du grand débat lui a permis de... Moi, je dirais pas de reprendre la main, mais en tous les cas, pour la première fois, de pouvoir enchaîner une séquence qui fonctionne un peu dans l'opinion. On l'a vu avec les maires, on le voit un peu avec les Français. Il y a quand même des Français qui participent aux différentes réunions de ce grand débat. Il y a aussi la multiplication des contributions sur les plateformes. Et puis, il y a le président lui-même qui s'est impliqué déjà à trois reprises, plus le Premier ministre. Et on voit même les ministres qui commencent, on l'a vu samedi d'ailleurs, ouvrir presque leur porte, aller discuter au cœur même des cortèges. C'était le cas d'Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer, qui a discuté non loin de son ministère avec des gilets jaunes. Donc, non pas que ça va mieux pour l'exécutif qui n'est pas du tout sorti de la situation compliquée dans laquelle il se trouve, mais il a retrouvé un peu d'oxygène. Et c'est les gilets jaunes qui, maintenant, eux, commencent un petit peu à tourner en rond. Pardonnez-moi l'image un peu autour de leur rond-point et des manifestations qui s'enchaînent le samedi. C'était le 11e la semaine passée, ce week-end. Et donc, pour eux, il y a le risque d'avoir des manifestations. Au fond, on ne retient que les violences. Mm-hmm. Alors, évidemment, il y a eu ce drame pour ce manifestant, Jérôme Rodriguez, on vient d'en parler. Mais il y a le risque, finalement, qu'on ne retienne que ça et que finalement, ça devienne un peu stérile. Et d'ailleurs, les gilets jaunes commencent à se diviser sur que faut-il faire maintenant. Il y en a qui veulent mettre un pied dans la politique. Il y a eu une annonce la semaine dernière contestée par une partie d'entre eux d'une liste gilets jaunes aux européennes. Il y a une figure du mouvement qui est elle-même contestée, Jacqueline Mourot, qui ouvre un parti ce week-end. Il y a ceux qui veulent continuer à manifester. On entendait Madame Deval sur votre antenne à l'instant. Donc il y a cette division maintenant du mouvement. Que faire de ce mouvement qui dure maintenant depuis plus de 2 mois ? Et qui, au fond, reste comme ça dans l'opinion, mais avec des samedis où, au fond, la mobilisation est un peu en demi-teinte, même si elle reste importante. On le voit d'ailleurs parce qu'elle est plus importante en province qu'à Paris. Donc c'est une vraie question maintenant pour les Gilets jaunes, alors que l'exécutif semble pouvoir un petit peu reprendre la main. Avec ce grand débat. Mais on n'en est qu'au début de ce grand débat. Il faudra voir comment l'exécutif sort lui-même de ce qu'il a lancé.
Comment garder la main, garder ce souffle si... Toutefois, il vous semble nécessaire. Hein. Laetitia Deval, on va en parler avec vous, porte-parole des Gilets jaunes du Val-d'Oise, juste après la pause. Vos témoignages, évidemment, au Standard d'Europe 1. Votre lecture de cette actualité est intéressante, que vous soyez noyé, lassé par ce mouvement. Il est quand même au cœur de notre actualité, Julie.
39-21, on vous écoute, vous appelez et on vous rappelle.
À tout de suite.
Gilets jaunes contre foulard rouge. Je vais vous lire le témoignage qui est arrivé sur la page Facebook d'Europe 1, signé Gwenaëlle. Elle comprend les foulards rouges. Voilà ce qu'elle nous dit. À un certain moment, il faut savoir dire stop. Et il y a toute une série de stops. Stop à la casse de certains gilets jaunes. Stop aux atteintes à la démocratie. Stop au blocage des commerces et de la libre circulation. Stop aux menaces faites aux opposants, à leur doctrine apolitique, qui en fait l'est. Stop aux menaces de violence faites contre les journalistes et l'atteinte à leur liberté. Stop aux violences faites contre les forces de l'ordre. Notre démocratie est en danger, conclut-elle.
Que pensez-vous, Laetitia Deval, de tous ces stops émis par Gwenaëlle, une citoyenne comme vous, vous qui êtes porte-parole des Gilets jaunes du Val-d'Oise, et alors que Bruno Jeudy, notre invité, nous disait qu'il y avait ce risque pour vous, Gilets jaunes, de tourner en rond aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous pouvez me reprendre tous les points stop à part un?
Alors, stop, Julie.
J'en ai beaucoup.
Stop à la casse de certains Gilets jaunes.
Tout à fait. Stop à la casse de certains dits Gilets jaunes.
Stop aux atteintes à la démocratie.
Nous prenons la démocratie, justement, puisque nous prenons la souveraineté par le peuple, ce qui est la définition de notre pays aussi.
Stop au blocage des commerces et de la libre circulation.
Nous avons demandé depuis un bout de temps, justement, de ne plus bloquer la circulation, de ne plus bloquer les usagers, de ne plus bloquer les commerces. Après, ce sont quelques dissidents qui décident d'agir autrement.
Stop aux menaces faites aux opposants, à leur doctrine apolitique, qui en fait l'est apolitique.
Alors moi, je dirais stop aux menaces faites aux Gilets jaunes, juste parce que justement, nous dénonçons et nous osons prendre la parole. Personnellement, j'en subis tous les jours des menaces de mort.
Stop aux menaces aux opposants, c'est parce qu'on a reproché à certains Gilets jaunes de s'infiltrer dans le cortège des foulards rouges, oui, et de les critiquer, alors que justement, bon, la liberté d'expression va dans les deux sens, Laetitia Deval.
Là, encore une fois, vous êtes la liberté d'expression dans les deux sens. Oui, dans ce cas-là, stop dans les deux sens. Et moi, je respecte, je suis dans le principe même de la démocratie, on a tous le droit à la parole.
Il y a encore deux stops. Stop aux menaces et violences faites contre les journalistes et l'atteinte à leur liberté.
Alors moi, je dirais stop effectivement aux violences faites aux journalistes qui sont sur le terrain. De toute façon, la violence en général. Mais de surcroît, effectivement, bien faire une scission que les Gilets jaunes, parce que malheureusement, n'ont pas tous cette information, que les journalistes que l'on trouve sur le terrain ne sont là que missionnés et ne font rien des images, ne font que les transmettre, ne les diffusent pas en plateau, ne les commandent pas, etc. Elles ne sont pas de parti pris. Donc effectivement, quand ils sont pris, c'est particulièrement désagréable pour eux, puisque eux sont payés pour faire un travail qu'ils font le mieux possible, et parfois ne sont pas payés bien cher non plus. Malheureusement, c'est ce qu'on reproche en général aux médias. Une fois de plus, je ne parle pas spécialement du vôtre, mais on ne dit pas l'intégralité de la vérité, ce qui fait que ça tronque un petit peu l'information.
Et j'ai l'impression que votre petit bout de chou, il dit stop aux interviews. Hein,
ouais. Mon petit bout de chou, il disait, je viens de me faire une bosse et je veux une petite boulette pour plus avoir de bosse.
L'arnica.
Il y a un dernier stop, je ne sais pas si on a le temps de le... Alors, stop aux violences faites contre nos forces de l'ordre.
Stop aux violences faites contre les Gilets jaunes.
Alors là encore, c'est un débat qu'on a ouvert. Comment mieux canaliser les violences vendredi avec l'usage de ces armes, grenades de désencerclement, LBD. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, Laetitia Deval, c'est que compte tenu du contexte, aller manifester, c'est prendre aussi un risque. On sait qu'il y a des mouvements de foule qui nous dépassent.
Je me permets de vous couper, excusez-moi. On nous a dit, vous prenez un risque parce que vous ne déclarez pas vos manifestations. Elles ne peuvent pas être encadrées, elles ne peuvent pas être sécurisées.
Maintenant, vous l'avez fait.
Nous les faisons. Cela n'empêche absolument pas les débordements à la fin des cortèges. Parce que tout le long du cortège, tant que le cortège est mobile, il ne se passe rien, il n'y a pas de vitrine cassée, il n'y a pas de débordement ou autre. Mais quand on arrive et qu'on se trouve aussitôt encerclé, certains en profitent effectivement pour aller en découdre. J'insiste sur le certain parce qu'il s'agit toujours d'une minorité qui stigmatise tout un mouvement. Mais les 99,9% des Gilets jaunes qui vont en manifestation ne sont pas dans cette optique-là. Il ne s'agit que du 0,1%.
Alors,
il faut se centrer aussi sur le pacifisme des personnes qui viennent. Et moi, je dis que non, nous ne devrions pas avoir peur d'aller dans une manifestation. Ce n'est pas normal d'avoir peur d'aller manifester en France.
Bah, ça fait 11 semaines, donc évidemment, on peut se dire que la manifestation aussi, puisqu'elle s'essouffle, on doit lui redonner un second sens, ou en tout cas un second souffle. Jérôme Sainte-Marie, vous êtes avec nous. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Président de l'Institut de Conseil et d'Études Pollingvox. La question que j'allais vous poser rejoint un peu ce que disait Laetitia, c'est-à-dire, est-ce qu'on est avec des gilets jaunes encore pacifiques ou un peu plus irréductibles. Ceux qui sont encore dans les cortèges aujourd'hui, en tout cas sont les plus motivés, évidemment, sont pour certains les plus radicaux aussi.
Oui, alors je ne peux parler que des manifestations auxquelles j'ai assisté, c'est-à-dire les manifestations parisiennes que je suis, comme je suis d'ailleurs bien sûr allé suivre hier la manifestation très différente à tout point de vue des foulards rouges.
Oui.
Sur les manifestations des Gilets jaunes, alors c'est assez variable selon les samedis. Il y a eu encore des manifestations très importantes d'un point de vue quantitatif et très, et faut le dire aujourd'hui, très sous-estimées par les déclarations et les chiffrages du ministère de l'Intérieur. Ça, je souligne ceci parce que c'est un facteur, à mon avis, de violence. Quand on discute avec les manifestants, ils sont vraiment très chagrinés et même très choqués par le fait que les estimations qui sont données par le ministère de l'Intérieur sont effectivement, leur paraissent...
Ils étaient bien plus que 5 000 à Paris samedi pour vous, c'est ça ?
Leur paraissent déloyales. Oui. Et c'est vrai que quand vous manifestez pour faire nombre. Et si vous n'arrivez pas à faire nombre, bien la tentation, c'est pour faire parler de vous, effectivement, d'avoir recours à une forme de violence. Alors, sur la composition des manifestations depuis les fêtes, ça a un petit peu changé quand même sur Paris. Ça ressemble beaucoup plus aux manifestations habituelles. Il y a moins de gens qui viennent de province, il y a moins d'ouvriers, par exemple. Mmh. Et on trouve davantage de la population qui manifeste habituellement, notamment dans les manifestations de gauche, voire d'extrême gauche. On a des slogans souvent hostiles à la police qu'on n'entendait pas auparavant.
Oui.
Et puis, face à cela, selon les samedis, on a des modalités du maintien de l'ordre qui sont incroyablement différentes. Il y a un vrai sujet d'enquête là-dessus. Parfois, il y a énormément de forces de l'ordre présentes, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs en termes de sécurité parce que ça dissuade les casseurs. Parfois, il n'y en a presque pas. Parfois, les forces de l'ordre sont très agressives. Parfois, elles sont au contraire très respectueuses, comme on était il y a 10 jours. Et ce qui crée un trouble très important, je dis ça par rapport aux incidents de samedi dernier, c'est pas la présence des gendarmes et des CRS est souvent très bien acceptée. Ce qui est plus compliqué, c'est quand il y a des unités qui sont mal identifiables, des gens probablement de la BAC ou de la BRI.
Ce qui semble être le cas en place de la Bastille.
Voilà, et qui ont des modalités d'intervention beaucoup plus agressives, qui probablement ne sont pas formées de la même manière au maintien de l'ordre. Mmh. Et ça crée une ambiance un peu de Far West, qui est assez, pour moi qui suis observateur, qui est également assez inquiétante par moment, alors que les professionnels du maintien de l'ordre, CRS et gendarmes mobiles, là, effectivement, on est dans... Tout le monde se sent beaucoup plus en sécurité, c'est beaucoup plus apaisant en quelque sorte.
Bien sûr, mais voilà, face à ce constat que vous venez de nous dresser, Jérôme Sainte-Marie, pourquoi certains, notamment Éric Drouet, un des porte-parole des Gilets jaunes, appellent à un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires pour que plus personne ne soit victime de ces blessures de guerre. Voilà les termes employés quand même. Il revient sur la blessure de Jérôme Rodriguez, blessé à l'œil samedi, place de la Bastille, pour l'acte 11 des Gilets jaunes, vers une transformation du mouvement peut-être, en tout cas. Vous évoquez cette manifestation des foulards rouges. Eh bien, je vais entendre face à Laetitia Deval, porte-parole des Gilets jaunes du Val-d'Oise, la porte-parole des foulards rouges, Corinne Chabert. Et Bruno, jeudi, analysera aussi pour nous ces manifestations qui se répondent et qui traduisent aussi l'état d'une opinion divisée dans notre pays. A tout de suite avec vous, Julie, et vos témoignages.
Rien ne semble arrêter la mobilisation des Gilets jaunes. Aucun des trois grands oraux du président de la République la semaine dernière ne les a convaincus. Quelle sera l'issue de ce mouvement ? On fait le tour de la question sur Europe 1 avec Wendy Bouchard.
Face à la lassitude d'une partie des Français, les foulards rouges ont manifesté hier. Ils étaient 10 500 à Paris à dire stop aux violences. Justement, les stops que vous avez énumérés il y a quelques instants, Julie. Bruno Jeudy va nous dire dans quelques secondes quelle réponse d'Emmanuel Macron on peut lire depuis l'Égypte. Il a envoyé quelques signaux. Et nous sommes avec la porte-parole des foulards rouges. Bonjour Corinne Chabert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous êtes à l'écoute depuis un petit moment maintenant de ce que nous disons dans cette émission, mais il est important d'avoir votre point de vue face à un mouvement qui, pour certains, se radicalise, pour d'autres, cherche un second souffle dans d'autres formes de manifestations. Qu'avez-vous voulu dire, vous, clairement, en manifestant hier dans les rues de Paris ?
Hier, je pense que c'était très clair. Le message était clair. Nous, on voudrait l'arrêt des violences. On l'a assez scandé.
Ça veut dire le mouvement peut continuer, mais sans violence ?
Ah bah oui, mais de toute façon, nous, on n'empêche personne de revendiquer. On est, Si vous voulez, les groupes qui se forment et qui veulent revendiquer des choses pour arriver à mieux vivre, je vois pas pourquoi on irait contrer ces mouvements-là. On n'est pas là pour ça, c'est la forme qui a été employée, si vous voulez, qui nous dérange, c'est tout. Voilà, on est une partie des Français qui avons envie de vivre tranquillement. Dans tous les pays, il y a une opposition parfois à des revendications ou à... nous, au début, si vous voulez, leurs revendications étaient claires, c'était pour le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, oui. Ça a un petit peu changé quand même. Et voilà, c'est la France qu'on n'a pas entendue pendant 2 mois et demi, qui était chez elle, qui a vu ces événements à la télé.
Qui en a marre, pour dire les choses, Corinne Chabert.
Exactement, puisqu'on en a subi les conséquences aussi, au niveau de nos travails, au niveau des blocages, voilà, au niveau des invectives qu'on reçoit en permanence sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, cette France-là, elle a envie de dire, c'est bon, on voudrait bien recommencer à travailler tranquillement, à vivre dans une France apaisée. On vous donne la parole, vous pouvez vous exprimer, essayer de faire les choses comme tout citoyen démocratique, employer la bonne méthode pour vous faire entendre.
La bonne méthode pour se faire entendre passe par l'occupation des ronds-points, retour à l'origine, par exemple, pour ce mouvement des Gilets jaunes, et stop aux mobilisations chaque samedi dans les différentes communes de France.
Ben non, l'occupation des ronds-points, pourquoi occuper des ronds-points pour faire des blocages, pour ralentir la circulation, empêcher les gens d'aller travailler. Il faut être réaliste, au bout d'un moment, ils ont mis 53 000 personnes en chômage technique. Ils font peur aux gens, hein, faut pas rêver, il y a des intimidations qui se font sur les points de blocage. On est obligé de mettre notre gilet jaune si on veut passer, on est obligé de mettre notre gilet pour signer une pétition. Il y a quand même tout un système violent qui s'est mis en place, que ce soit sur les ronds-points ou en fin de manifestation. Alors après, on est bien d'accord pour dire que tous les gilets jaunes ne sont pas comme ça. Puisque moi, j'en côtoie beaucoup en ce moment et je discute beaucoup avec eux. Ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Il y a vraiment un groupuscule qui mène ça d'une main de maître et qui se fait entendre par la violence.
Eh bien, voilà. Je vais, maintenant que les arguments ont été posés, donner la parole juste après la pause à Olivier Bruno, qui est gilet jaune à Rouen, qui va rebondir point par point à ce que vous venez de dire, Corinne Chabert, pour les foulards rouges. Bruno, jeudi, on attend votre analyse dans un instant. Laetitia Deval, les gilets jaunes également, pourra nous dire, au fond, l'une de ses revendications, le pouvoir d'achat qui ne doit pas être noyé par tout ce qu'on entend par ailleurs depuis 2 mois et demi maintenant. Revenons aux origines, demande un certain nombre de gilets jaunes des débuts. À tout de suite.
Gilets jaunes contre foulard rouge, assiste-t-on à une transformation du mouvement? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
Et quel impact des foulards rouges? On entendait la porte-parole de ce mouvement, Corinne Chabert. Ils étaient 10 500 à participer et à défiler contre les violences et contre les blocages. Nous ne voulons plus être muselés par ce mouvement, par les manifestations chaque semaine, par les occupations de ronds-points, témoignage de lassitude de quelques Français. Bruno, jeudi, c'est un mouvement vis-à-vis duquel l'exécutif a vraiment tenu distance. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que la majorité récupère aussi ce mouvement, par crainte peut-être que la mobilisation ne soit pas à l'avenant et que les chiffres soient assez faibles, mais beaucoup de prudence. Hein.
Oui, c'est exactement le mot. Hein. Beaucoup de prudence d'abord de la part de l'exécutif. On avait entendu même un ministre, Jean-Michel Blanquer, évoquer l'idée de pouvoir éventuellement participer à la manifestation de dimanche. Et puis finalement, il y a renoncé, comme l'ensemble des membres du gouvernement qui ont expliqué que c'était mieux de laisser ce mouvement vivre sa vie en quelque sorte. Et l'exécutif ne voulant pas souffler sur les braises en divisant un peu plus les Français. Et puis il y a eu le délégué général d'En Marche, hein, Stanislas Guérini, hein, qui lui a formellement pris position de neutralité vis-à-vis de ce mouvement des Gilets rouges, laissant les députés qui voudraient y aller s'y rendre. Et d'ailleurs, il y avait quelques parlementaires de La République En Marche qui étaient présents ce dimanche aux côtés des Gilets rouges. Mais la plupart se sont abstenus, voulant éviter en quelque sorte d'être être jugés partis au moment où ils demandent, ils appellent les Français à venir dans le grand débat. C'était un petit peu la Libye. Et puis, je pense qu'il y avait aussi de la prudence. Ils ne savaient pas combien il y aurait de personnes. Voilà, ils ne voulaient pas non plus qu'on fasse une espèce de parallèle avec ce qui s'était passé en 1968, où il y avait un puissant mouvement de soutien au général de Gaulle qui s'était exprimé dans la rue. Donc, rien à voir avec cette période-là. Et du coup, les foulards rouges ont eux-mêmes... finalement aussi élargi leurs revendications, hein, puisque c'était de l'opposition aux violences. On a entendu la personne à l'instant en parler, le soutien à la démocratie, le soutien aux journalistes. Enfin voilà, il y avait toute forme de revendications qui rendaient, à mon sens, quand même un peu ce mouvement un peu illisible aussi, quelque part. Hein,
des foulards rouges, oui. Certains étaient pro-gilets jaunes, oui, mais en même temps, c'est un agrégat aussi protéiforme.
Un agrégat protéiforme, hein. Qui rendait un peu plus difficile à lire ce mouvement, qui, quand même, a réuni 10 000 personnes. Alors, c'est à la fois beaucoup, puis en même temps, on aurait pu se dire qu'il y aurait pu y avoir plus de monde, hein, parce que finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui en ont marre des gilets jaunes, qui en ont marre des violences, qui en ont marre. Mais bon, 10 000, et ils faisaient quand même très mauvais en plus, il faut le dire.
Oui, mais c'était une expression de la majorité qui se tait depuis 2 mois et demi, voilà ce que disait un certain nombre de foulards rouges. Et vous savez bien, voilà, qu'était le but aussi de cette mobilisation. Olivier Bruno, bonjour.
Oui, bonjour Wendy.
Vous qui êtes avec nous en ligne, porte-parole du Rond-Point des Vaches en Seine-Maritime. Vous avez entendu ce que disait Corinne Chabert à l'instant. Il faut être réaliste, certains gilets jaunes font peur aux gens, il y a de l'intimidation sur les ronds-points. Alors, je ne sais pas comment ça se passe du côté de chez vous, mais voilà, est-ce que vous pouvez répondre aux arguments et aux ressentis avancés par Corinne Chabert, s'il vous plaît?
Bah, écoutez,
qui est en ligne avec vous?
Oui, tout à fait. Bonjour Madame Chabert.
Bonjour.
Écoutez, la peur et la violence, ça a toujours existé de toute manifestation, qu'elle soit syndicale, qu'elle soit des défilés, retraités, salariés ou autres, de tout temps, il y a toujours eu malheureusement des minorités, effectivement, qui engrainent une certaine violence et haine qui n'est pas, nous, effectivement, au niveau du Rond-Point des Vaches et sur beaucoup de points de filtrage et non pas de blocage, contrairement à ce que l'on peut dire, il y a aussi effectivement une minorité qui vient aussi bien sur les ronds-points que sur les manifestations rouennaises, prêts à en découdre. Mais il ne faut pas oublier que la première violence depuis le début du mouvement vient du gouvernement, vient des violences policières, qui ne maîtrisent plus du tout.
Pas exagérer non plus.
Corinne Chabert.
Moi, je suis pas comment je suis pas tellement
d'accord. Attendez, Madame Chabert. Moi, Madame Chabert,
non,
je vous
écoute. Il faut éteindre la télé et aller dans la rue.
Laissez-moi.
Hein.
Voilà. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous ai écouté depuis le début de l'émission. Hein. Je vous suis depuis 9h, donc j'aimerais que vous me laissiez la parole. Merci à vous. Les violences policières, quand vous savez pertinemment, comme par exemple récemment à Évreux, où l'on met à des policiers municipaux qui font la circulation des LBD dans les mains, les caméras qui ne sont pas en route, contrairement à ce que M. Nounès ou M. Castaner avaient dit,
vous pouvez comprendre Olivier que les violences policières sont bien réelles. Là où on peut vous arrêter, c'est que ça n'a rien à voir avec l'origine du propos. C'est-à-dire que les violences policières sont arrivées au terme aussi d'une lassitude, d'un épuissement des forces de l'ordre.
Mais nous aussi, nous sommes épuisés.
Laetitia Deval.
Oui, je suis désolée, mais nous aussi, on est épuisés. Quand ça fait justement 11 samedis qu'on va marcher environ 25 km dans le froid, si on le fait, c'est pas juste parce qu'on a envie. On le fait par conviction, on le fait pour une justice sociale. Nous aussi, on est épuisés. C'est pas pour autant que nous avons des débordements, autant qu'on peut en dire. Moi, pour mon 11e samedi ou dimanche, quand c'est la marche des citoyennes gilets jaunes, je suis fatiguée. Je préférerais rester à la maison avec mes 3 enfants et mon mari. Si je le fais, c'est par conviction. Et à aucun moment, je n'ai été violente vis-à-vis des forces de l'ordre, malgré tout ce que j'ai pu subir, que ce soit le gaz, que ce soit se mettre à dos face au flashball pour éviter de mettre également la capuche sur la tête pour pas que les bombes de désencerclement nous tombent dessus, alors que nous sommes pacifistes. Donc nous aussi, nous sommes épuisés. Mais nous ne sommes pas violents pour autant.
Mais Corinne Chabert...
Moi, j'aimerais bien poser une question à Mme Chabert.
Allez-y, Olivier Bruno.
Je voudrais savoir ce que pense Mme Chabert des 12 morts et des milliers de blessés. Qui vont être obligés de se retrouver.
Je les ai toujours déplorés. Après, hier, on a manifesté, on était 10 500. Il n'y a pas eu un débordement.
Non, vous n'étiez pas 10 500.
Si vous étiez 10 500, nous étions 15 000 dans ce cas-là.
Voilà.
Je pense que nous n'avons pas le même compteur officiel.
Ne jouez pas avec le compteur du gouvernement, madame.
Nous, on fait confiance aux institutions à la différence de vous. Mais c'est bien, nous ne sommes plus aveuglés. Nous, nous avons pensé à réfléchir par nous-mêmes.
Madame Chabert, je tiens à vous dire que dès le 22 novembre...
C'est impossible de discuter avec vous.
C'est impossible.
Maintenant, Madame Chabert.
Un dialogue construit. Je ne comprends pas pourquoi.
Bah, sauf que maintenant, je commence à parler, c'est vous qui avez commencé à lui couper la parole. Donc, si vous voulez parler de discours, laissez-le finir.
Alors, Olivier Brunet,
vas-y.
Allez,
Madame Chabert, excusez-moi, vous parlez que nous ne rentrons pas auprès de nos institutions. Sachez que dès le 22 novembre, Madame Chabert, et ça, vous ne savez pas tout non plus, dès le 22 novembre, nous nous sommes rendus auprès de Madame la préfète de Rouen pour lui donner les premières doléances, pour lui expliquer le constat. Monsieur Macron nous a dit qu'il nous répondrait, qu'il se donnait un délai de 3 mois. Nous avons redonné des doléances courant décembre. Nous avons été voir M. Hervé Morin, président de région Haute-Normandie et président des présidents de région de France, qui voulait remonter les doléances. Nous n'avons toujours pas de réponse à 72 jours de combat. Nous avons été, présenté à Bourtrou aussi auprès de Mme Morin.
Olivier, Olivier Bruno et Corinne Chabert, pardon, j'ai l'impression qu'on a déjà parlé ça, Olivier Bruno, dans une émission précédente et qu'on s'était dit ensemble que très probablement le gouvernement attendait la fin du grand débat, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de retour à vos doléances avant là.
C'est un enfumage, Wendy. Quand vous voyez que
nous n'avons plus le temps d'attendre.
M. Macron, M. Philippe.
Plus le temps d'attendre. Ce que je retiens également.
Nous organisons des réunions citoyennes où les maires nous donnent gracieusement, sur toute la rive gauche de Rouen, gracieusement des salles
locaux,
pour réaliser de réelles réunions citoyennes sans que M. Macron ou Édouard Philippe commandent ces réunions. Voilà, nous sommes toujours dans l'enfumage.
Olivier, Bruno, Laetitia Deval, porte-parole des Gilets jaunes, vous êtes avec nous. J'aimerais que Corinne Chabert quand même puisse exprimer des foulards rouges parce qu'elle traduit aussi ce que pensent un certain nombre de Français, c'est-à-dire on respecte votre mouvement, mais essayez de trouver d'autres manières de revendiquer pour moins impacter la vie quotidienne d'un certain nombre de Français. On revient avec vous également sur cette lecture de l'actualité, sur la réponse d'Emmanuel Macron depuis l'Égypte. Bruno Jeudy, rédacteur en chef et chef du service politique à Paris Match. Et puis je donnerai la parole à Michel qui nous attend au standard au 3921. Beaucoup d'appels pour réagir également avec nos invités sur cette actualité, Julie.
Emmanuel Macron est en Égypte. Quelle réponse a-t-il donné pour apaiser les foules ? Wendy Bouchard, Bruno Jeudy.
Ces mots, ce qui est en train de se passer est un moment de vérité. Je n'ai jamais imaginé que j'allais vivre un mandat calme et heureux et je veux tirer des conséquences profondes du grand débat. Il se dit lui-même être enfant de cette colère, Bruno Jeudy. Tout ça a été, n'a pas été filmé. Ce sont des propos qui ont été rapportés par des journalistes présents à ses côtés. Tirer les conséquences profondes du grand débat avec donc des mesures concrètes. On voit bien qu'en ce moment, le Premier ministre relance la réflexion sur les 80 km/h qu'il avait pourtant souhaité mordicus.
Oui, il est évident que s'il a lancé ce grand débat, Emmanuel Macron sait bien que derrière, ça ne peut pas accoucher d'une souris. Forcément, il y aura des réponses puissantes derrière. On n'imagine pas autre chose, d'autant plus qu'il reste quand même sous la pression des gilets jaunes, de cette contestation plus ou moins larvée, parfois violente le samedi. Et puis en même temps, même dans l'opinion, même s'il est remonté un petit peu, il reste quand même largement impopulaire. Donc Emmanuel Macron sait qu'il devra... Maintenant, la question, c'est quelle forme ça va prendre. On sait que ce sera à la mi-mars. C'est difficile à dire si, au départ, il y avait l'idée peut-être de rester sur quelque chose qui soit un peu de l'ordre institutionnel, des réponses, en quelque sorte, tout ce qui touche à la démocratie, à la participation plus active, plus importante des citoyens. On avait évoqué un certain nombre d'une sorte de référendum à choix multiples, vous savez, avec plusieurs questions, la diminution du nombre de mandats, éventuellement la question du référendum et autres. Je crois quand même que pour le président, il y a un risque peut-être à noyer les doléances du départ, qui était quand même le pouvoir d'achat. Si on revient à ce mouvement des Gilets jaunes, le point de départ, ça reste quand même le pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'il y a peut-être la tentation d'aller vers des réponses institutionnelles, d'oublier le pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat, à mon avis, c'est celui qui a motivé ce mouvement. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les manifestations du samedi, c'est devenu voire assez politique. Le RIC, c'est quelque chose qui a apparu bien après la question du pouvoir d'achat. Or, la réponse, à mon sens, elle doit d'abord concerner le pouvoir d'achat. Après, c'est l'exécutif qui tirera ou non les conclusions. On voit bien qu'en tous les cas, il commence à lâcher sur quelques éléments. Le 80 km/h, vous avez raison, ce n'est pas un hasard. Et puis, c'est, j'allais dire, pour le président, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile parce que lui-même n'était pas tellement pour. Hein. Il dit en privé que c'est quelque chose, c'est une connerie, ça vient de son Premier ministre. Oui. Bon, là, il se défausse un peu.
Vous parlez du pouvoir d'achat, Laetitia Deval, porte-parole des Gilets jaunes du Val-d'Oise. On vous a vu vendredi soir, vous étiez aux côtés de Marlène Schiappa.
pas, Cyril Hanouna, dans ce grand débat. Vous y avez participé. Vous considérez donc que, par exemple, ce débat, ces propositions, on peut davantage les faire à la télé, en tout cas dans ce genre d'émission, que dans le grand débat que vous qualifiez, comme Olivier Bruno, d'enfumage.
Je pense qu'on peut les faire absolument partout.
Ah,
moi, dans l'absolu, l'intérêt de participer à une émission de grande audition, c'était de grande audimat, pardon, c'était aussi de de dévulgariser la démocratie, c'est-à-dire de la donner beaucoup plus accessible, de donner la parole à tous et pour tout le monde. Mm-hmm. Justement, moi, lors de cette émission, j'ai parlé d'une chose qui est le pouvoir d'achat, puisque j'ai parlé de la TVA.
Oui.
Donc, vous voyez qu'on n'a pas perdu l'essence même de notre mouvement des Gilets jaunes.
Vous avez prôné, Laetitia, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité.
Sur les produits de première nécessité, sur les produits d'hygiène, parce que tout n'a pas été retenu. Donc TVA zéro sur les produits de première nécessité, d'hygiène et de tout ce qui se rapporte à la puériculture, l'alimentation, les couches, etc. Et une division par deux, donc une baisse de 10 points sur tout ce qui est vestimentaire, puisqu'il s'agit aussi de première nécessité que de pouvoir s'habiller. Voilà ce qu'on trouve. Mais les Gilets jaunes, ça fait partie des revendications des Gilets jaunes.
Je vais juste finir
là-dessus. C'est quand on nous dit qu'on s'est écarté de notre revendication principale, à savoir le pouvoir d'achat, il faut savoir que le gouvernement a quand même mis du temps avant de commencer à nous donner quelques petites miettes et que malheureusement, pendant ce temps-là, nous, le peuple, nous avons commencé aussi à réfléchir et à réfléchir plus grand. Donc, c'est au gouvernement de se poser les questions, pourquoi ne pas avoir réagi aussitôt, de telle sorte à ne pas laisser les citoyens réfléchir trop longtemps.
Le gouvernement qui souhaite en tirer les conséquences. Je vous remercie Laetitia Deval. Occupez-vous de votre petit bout de chou. Et juste avant la pause, je voudrais faire réagir Corinne Chabert sur ce que Laetitia vient de dire sur le pouvoir d'achat. Ces mesures-là vous semblent bien fondées, Corinne Chabert, vous, citoyenne aussi, mais foulard rouge, mobilisée hier dans les Hauts-de-Paris.
Ah bah oui, non, mais après, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les Gilets jaunes ont des revendications. Aujourd'hui, ils vont les amener sur la table. Il n'y a plus besoin non plus de mettre le pays à feu et à sang pour aller porter des revendications qu'ils défendent bec et ongles depuis 2 mois et demi. Chacun a des revendications, autant qu'il les exprime, mais qu'il les exprime démocratiquement et qu'ils ouvrent le dialogue avec l'ensemble des citoyens. Parce que ce n'est pas en dialoguant entre eux qu'ils vont arriver à changer les choses. Il faut qu'ils convainquent l'opinion publique de se rallier à eux sur certaines revendications qui sont justes. Mmh. Et nous, c'est ce qu'on demande. On veut entrer dans le dialogue avec eux pour trouver des solutions ensemble, mais des solutions justes et des solutions démocratiques.
Merci, merci Corinne Chabert, porte-parole des Foulards Rouges. Merci d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1. Je reste avec Olivier Bruno, porte-parole du rond-point des Vaches en Seine-Maritime. Et Bruno, jeudi, à tout de suite pour quelques minutes encore sur ce mouvement. Comment doit-il se transformer ou évoluer, du moins, les Gilets jaunes en question.
En réponse aux Gilets jaunes et pour dénoncer leurs dérives, les Foulards Rouges ont également marché hier dans Paris. Est-ce qu'on assiste à une transformation du mouvement ? On fait le tour de la question pendant quelques minutes encore.
Avec Bruno Jeudy, rédacteur en chef et chef du service politique à Paris Match, et Olivier Bruno, porte-parole du rond-point des Vaches en Seine-Maritime. Olivier Bruno, il y a beaucoup d'interrogations sur la suite du mouvement. Doit-il revenir aux origines, sur les ronds-points ? Doit-il être en mouvement le samedi, statique ? Faut-il continuer les manifestations ? Faut-il politiser la revendication ? Faut-il une liste gilets jaunes ? Enfin, il y a quasiment autant maintenant de je vais pas dire autant de gilets jaunes que de désirs d'avenir, mais il y a quand même beaucoup de pistes évoquées pour la suite de l'événement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, tout à fait. Écoutez, en premier lieu, il faut rester sur les bases du mouvement. Nous ne bloquons plus sur les ronds-points. Très rarement du filtrage, hein, ça nous est interdit, on n'a même plus le droit au feu pour se réchauffer pour notre Seigneur. Donc effectivement, on continue en termes de visibilité à rester sur les ronds-points. On a le soutien des routiers qui klaxonnent, qui se mettent éventuellement en coupure sur les ronds-points pour justement, eux, filtrer la circulation. Après, à côté de ça, dans les prochains jours, c'est effectivement de toute façon de continuer à travailler sur le RIC, de travailler sur des réunions publiques, mais vraiment des réunions publiques citoyennes, d'échange et de partage.
Oui, que nous avons mais qui peuvent s'inscrire dans le grand débat ? Qui peuvent s'inscrire dans le grand débat, Olivier Bruno ?
Écoutez, ils peuvent éventuellement s'inscrire dans le grand débat, sauf que de toute façon, ces réunions publiques ne sont pas reconnues officiellement de toute façon par le gouvernement, parce que nous sommes en train de participer à une pédagogie citoyenne en expliquant à nos citoyens ce qu'est un RIC, ce qu'est un CICE, ce qu'est une flat tax, une écotax. Voilà, on est vraiment en train d'expliquer ce qui se passe avec aussi bien des chefs d'entreprise
que du chômeur, que de la personne salariée ou fonctionnaire. Il y a vraiment une équité qui reste présente. Donc, tes réunions, effectivement, qui sont très importantes et que nous mettons en place auprès des mairies qui acceptent de nous allouer des salles, et elles sont nombreuses en Seine-Maritime.
Et Olivier Bruneau, je vais vous couper parce qu'on vous entend très mal, mais il y a aussi le principe d'une liste Gilets jaunes aux européennes, qui est créditée d'ailleurs. Alors, les sondages sont étonnants, Bruneau, je dis, vous nous rappelez un peu le
13% selon une première étude réalisée par Elab la semaine dernière.
Vous y croyez, vous ?
Moi, j'y crois. J'ai du mal à y croire à 13%. D'abord, ça me paraît très, très élevé. Ensuite, on est loin d'abord de l'échéance. Il peut y avoir d'autres listes. C'est une liste, en plus, qui repose uniquement sur quelques noms. C'est absolument pas quel programme il pourrait avoir.
Et qui divise et qui déchire les Gilets jaunes.
Voilà. Donc, en même temps, mettre deux noms et liste Gilets jaunes, ça suffira sans doute pas à convaincre les Français.
Mais il y a des partisans d'une politisation vraiment du mouvement, en tout cas. Hein.
En plus, c'est sûr que ça peut perturber et même bouleverser l'échiquier politique, parce que le premier truc assez savoureux qu'on a vu, c'est ceux qui soutenaient le plus les Gilets jaunes se sont mis à bombarder la liste. Je pense à Marine Le Pen pour le Rassemblement National, à Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, qui d'un seul coup se sont retournés en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette liste ? C'est n'importe quoi, ils n'ont pas de programme, on ne sait pas de quoi ils parlent ». Donc ça, c'était plutôt assez savoureux de voir ceux qui avaient encensé le mouvement des Gilets jaunes tout à coup se retourner contre une partie d'entre eux.
Et puis une prochaine étape qui semble faire consensus dans un certain nombre de camps de Gilets jaunes, c'est celle du blocage économique le 5 février, d'une grève générale à l'appel de la CGT également. On verra si ce mouvement est suivi des faits, mais voilà, ça gronde aussi et un peu partout en France.
Le signe d'une politisation croissante du mouvement, parce que les appels à la grève générale, c'est assez commun chez les syndicats plus classiques.
Et ben voilà, la récupération peut-être de ce mouvement. En tout cas, merci à vous tous d'avoir réagi. Je suis navrée pour Michel, Stéphane et Julien qui voulaient également prendre la parole au 39-21. On vous retrouvera sur le sujet parce que demain, on va s'intéresser notamment aux 80 km/h. En tout cas, merci Bruneau Jeudy.
Merci,
à très
Wendy.
Bientôt. À très bientôt. On va maintenant faire une petite pause et parler de la surpêche, Julie, avec un spécialiste de la mer, Christian Bûcher, avec l'association Bloom, qui est représentée en studio et qui attaque l'État pour excès de pouvoir, qui joue l'omerta sur ce sujet, justement, des subventions. Quelle est la pêche la plus subventionnée en France ? La pêche artisanale, la pêche industrielle ? On va faire le point sur ce sujet-là jusqu'à 11h.